Il est midi et demi sur France Culture. Tout de suite, l'heure pour vous de retrouver le journal de Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour. L'Europe relance l'idée d'installer en Afrique ou dans les Balkans des centres de traitement des demandeurs d'asile. Quelle logique les 27 poursuivent-ils et qu'en disent les pays africains concernés? Ce sera le principal dossier de notre journal qui va nous emmener de Bruxelles à Rabat au Maroc, en passant par ici même en studio avec notre invitée, la ministre Jacqueline Gourault. Angela Merkel et Emmanuel Macron qui veulent doter la zone euro d'un budget commun associé à un backstop, filet de sécurité en cas de nouvelle crise financière. Explication à suivre avec Marie Viennot. Au Yémen, la bataille du port d'Odeida sur la mer Rouge dure depuis une semaine et les forces pro-gouvernementales disent avoir chassé les Houthis de l'aéroport de la ville. Nous ferons le point avec Nabila Hamel. Laurent Berger lui déclare qu'il ne veut pas d'une grève des cheminots au-delà du 28 juin. Il confirme donc l'éclatement annoncé de l'unité syndicale à la SNCF. Commentaire avec Hakim Kasmi. Et puis pourquoi l'énergie éolienne ne décolle-t-elle pas en France? Ses détracteurs affinent leurs arguments économiques au moment où Emmanuel Macron lui est en Bretagne aujourd'hui pour ici superviser un projet de 62 éoliennes en mer. C'est ce que nous verrons avec Véronique Robérot. Quelle invitée pour la deuxième partie de la grande table, Olivia.
Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik sera avec nous, grand témoin de la semaine à partir de 12h55. Vous savez, il a été chargé d'une mission sur l'école maternelle par le ministre Jean-Michel Blanquer. Il nous dira donc ce qui se joue à cet âge de la vie, comment favoriser aussi l'indépendance et le bonheur de nos enfants. On en parlera donc tout à l'heure.
Boris Cyrulnik à 12h55. En cette journée mondiale des réfugiés, la politique migratoire de l'Europe est à nouveau au cœur de l'actualité à Rome, où le Premier ministre italien Giuseppe Conte reçoit le président du Conseil européen. Donald Tusk, on le sait, prépare en ce moment le texte qui sera soumis le 28 juin aux dirigeants de l'UE au cours d'un sommet européen qui s'annonce clairement polarisé autour de cette réponse commune à apporter aux défis migratoires. À Bruxelles, justement, nous joignons tout de suite Pierre Benazet. Bonjour Pierre.
Bonjour Camille.
Sur ce que prépare Donald Tusk, il y a eu des fuites. Hier, on a pu prendre connaissance d'un projet de conclusion qui soutient le développement de plateformes régionales de débarquement des candidats à l'immigration vers l'Europe, des hotspots, en fait, centres de tri des migrants qui seraient installés dans des pays non européens. Alors Pierre, c'est loin d'être la première fois que cette idée est mise en avant, déjà appliquée même en Libye ou au Niger. De quoi parle-t-on vraiment et pourquoi est-ce que ça reste soumis à des obstacles tant juridiques que, disons, moraux?
Les obstacles moraux, en fin de compte, seront les plus compliqués ou les plus simples à régler parce que le projet devra, quoi qu'il arrive, faire l'objet d'un consensus à 28. On sort donc directement du champ moral pour entrer dans le champ politico-diplomatique, si vous voulez. Il sera donc question de tractation entre gouvernements et plus de débats éthiques. Pour ce qui est des problèmes juridiques, ils sont essentiellement d'ordre diplomatique. Là aussi, la question, c'est pour les gouvernements de l'UE de décider s'ils veulent ou non sous-traiter la question migratoire depuis l'afflux massif de migrants à partir du printemps 2015. L'idée de les fixer en quelque sorte à l'extérieur des frontières européennes est de plus en plus en vogue. Pour les Européens, il s'agit donc de parvenir à convaincre les pays de transit de devenir la dernière barrière avant l'UE. Et là, il n'est plus question de débat juridique, mais de soutien politique et financier aux États pressentis, que ce soit en Afrique ou dans les Balkans, ce qui est la dernière nouveauté en date. On y construirait ces fameuses plateformes régionales de débarquement. Il faut tout de suite faire la différence avec les hotspots dont vous parliez, qui sont situés en Italie, sur l'île de Lampedusa, par exemple, ou en Grèce, sur des îles comme Samos, Lesbos ou Rhodes. Il s'agit là de centres de tri sur le territoire de l'UE. Et c'est bien pour éviter d'avoir à les maintenir ouverts ou à créer d'autres centres que l'Union envisage des centres en dehors de ses frontières. Outre les lieux classiques de transit comme Turquie, Niger, Libye ou Tchad, on parle maintenant ici de chercher des accords avec la Tunisie pour les arrivées vers la Méditerranée ou l'Albanie pour les arrivées via la route des Balkans. L'objectif, c'est évidemment dissuader les migrants économiques et filtrer ceux qui pourraient obtenir un statut de réfugié en Europe.
Pierre Benazet, merci beaucoup pour toutes ces précisions à Bruxelles. Nous allons à présent voir comment les pays africains qui pourraient être concernés par l'installation de ces centres européens de traitement des demandes d'asile pourraient réagir à cette possibilité. Le sujet, justement, était évoqué hier à Rabat, au Maroc, au cours d'une conférence de sécurité africaine. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Abdelhak Bassou. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Alors, Abdelhak Bassou, on va voir si la ligne nous permet de continuer l'interview. Vous êtes l'ancien patron de la police aux frontières marocaines. Désormais, vous êtes analyste associé au think tank OCP Policy Center qui organise justement la conférence de Rabat. Alors, hier, pendant cette conférence, vous avez dit votre scepticisme sur ces centres de traitement européens dans les pays d'origine ou de transit des migrants. Sur quel point est-ce que vous êtes sceptique?
Sceptique,
je suis... On a, voilà, on va... J'analyse. Abdelhak Bassou, on va vous retrouver dans quelques instants, le temps d'établir une connexion téléphonique qui soit plus possible pour vous entendre et bien comprendre ce que vous avez à nous dire. Je vais me tourner donc tout de suite vers Jacqueline Gourault. Bonjour.
Bonjour.
Invitée de ce journal. Donc vous êtes ministre auprès du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Vous allez défendez en ce moment le projet de loi asile immigration devant le Sénat. Sur cette question, justement, cette proposition européenne qu'on avait déjà évoquée de centre de traitement des flux migratoires en amont, comment est-ce que vous réagissez? Alors, quelle est la position, en tout cas, de votre gouvernement?
En vous écoutant, il y a une chose qui est évidente, c'est que le phénomène migratoire touche tous les pays. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, par exemple, le Maroc, qu'on n'a pas entendu, est à la fois un pays d'accueil, un pays de transit et un pays de départ. Donc, on voit bien que c'est un sujet compliqué, mais en tout cas, ce qui est certain, qui se développe, notamment bilatéral entre la France et un certain nombre de pays, mais que la France a porté aussi au niveau européen, c'est de travailler le plus possible avec les pays de départ.
Est-ce que ça fonctionne? On le fait au Niger déjà, à
Agadez. Et ça fonctionne. À Agadez, par exemple, vous avez cité un bon exemple, mais aussi avec d'autres pays qui sont moins éloignés. Je pense, par exemple, à l'Albanie, où, vous savez, c'était le nombre le plus important de migrants l'année dernière ont été les Albanais, parce qu'il y avait une politique de visa qui avait été facilitée. Et nous avons eu un travail avec les Albanais qui a fait baisser de moitié l'immigration albanaise en France, parce que, naturellement, les Albanais ont aussi besoin de leurs jeunes. C'est un petit pays qui a besoin de sa jeunesse.
Question de Stéphane Robert.
Est-ce qu'avec cette idée de ces camps de transit aux frontières de l'Union européenne, est-ce qu'on ne demande pas à ces pays qui sont à la marge de l'Union européenne d'être ce que la France est à l'Angleterre avec tous ces migrants qui s'entassent à Calais? Et est-ce qu'on ne risque pas d'avoir le même phénomène?
Je crois qu'il faut travailler avec tous les pays et pour essayer de répartir les responsabilités de chacun et pour essayer effectivement de répondre de façon la plus humaine au sujet des migrations, à savoir qu'il faut aussi lutter contre les réseaux. C'est quelque chose qui n'a pas été évoqué mais qui est très important. On sait très bien qu'il y a des gens qui sont des migrants, je dirais presque forcés, c'est-à-dire qui sont embarqués par des réseaux, qui sont souvent des réseaux aussi de trafic d'armes, de trafic de drogue et parfois aussi sur le plan de la radicalisation des esprits. Donc il y a tout un ensemble qu'il faut monter au niveau international.
Jacqueline Gourault, merci. Vous voyez, on a eu un peu plus de temps pour parler de ce sujet-là avec vous, mais on n'arrive pas à joindre notre intervenant depuis le Maroc, donc c'est bien dommage qu'on n'ait pas pu évoquer ces questions sous l'aspect africain, et on aura l'occasion de le faire certainement dans nos prochaines éditions. Jacqueline Gourault, vous, on vous retrouve en tout cas pour parler d'autres sujets concernant l'actualité du gouvernement et de ces questions d'asile et d'immigration dans la séquence interview de ce journal. Mais on zoome tout de suite encore un peu plus sur les grands débats européens du moment, à l'échelle à présent de la zone euro. On prenait acte hier soir de l'accord entre la chancelière allemande et le président français sur la constitution d'un budget de la zone euro, proposition de Paris jusque-là repoussée par Berlin. Alors à quoi servirait ce budget? Comment serait-il financé? Écoutez ce qu'en disait ce matin le ministre Bruno Le Maire sur France Info.
Nous allons pouvoir investir en commun, financer des programmes d'innovation, par exemple sur l'intelligence artificielle, sur les batteries. Nous pourrons mettre l'argent en commun des 19 pour avoir des programmes beaucoup plus puissants, beaucoup plus efficaces, qui préparent l'avenir de la zone euro. L'argent, il peut venir, par exemple, c'est mentionné dans le texte, de la taxe sur les transactions financières. Il peut y avoir une part de l'impôt sur les sociétés qui sera consacrée à ce budget. On a devant nous 3 ans pour le décider, puisqu'il doit se mettre en place en 2021. Donc il y a encore le temps.
Ça fait autant de ressources en moins pour nous, hein,
si on les donne. Ça fait aussi plus de croissance pour nous à la sortie, ouais. Et c'est bien l'objectif.
Voilà pour Bruno Le Maire au micro de Jean-Michel Apathy sur France Info. Alors au-delà de cette concession arrachée sur le budget à Angela Merkel, Emmanuel Macron et la chancelière hier ont avancé sur un autre dispositif central dans le futur édifice économique censé consolider la monnaie unique dans l'hypothèse d'une nouvelle crise financière. On en parle avec vous. Bonjour Marie Vienneau.
Bonjour.
Ce dispositif, il s'appelle le backstop ou filet de sécurité. Vous nous expliquez pourquoi ce backstop, il est si important pour consolider la zone euro, comme l'ont expliqué justement Emmanuel Macron et Angela Merkel.
Bien, la zone euro continue à chercher des solutions pour ne pas revivre la crise financière d'il y a 10 ans, ou plutôt elle cherche des mécanismes pour qu'en cas de crise, on ne se retrouve pas obligé à discuter des 10h à 19h sur des sujets extrêmement compliqués et engageants, alors qu'il y a urgence à prendre des décisions rapides. Le filet de sécurité ou backstop est l'un de ces mécanismes. Plus concrètement, c'est de l'argent que les États de la zone euro mettraient en commun et qui permettrait d'aider en dernier ressort une banque de la zone euro ou plusieurs qui risquent de faire faillite, mais qui sont too big to fail, comme on dit, c'est-à-dire trop grosses et trop reliées aux autres institutions financières pour être laissées à leur triste sort, car cela pourrait entraîner toute l'économie de la zone euro, voire au-delà dans la crise. Voilà pourquoi c'est si important. Les Européens ont déjà beaucoup avancé sur ces mécanismes qu'on appelle de résolution bancaire, mais pour le moment, dans leur plan, il n'y a que 55 milliards d'euros. Le filet de sécurité viendrait en plus de ces 55 milliards dans le cas où ça ne soit pas suffisant, ce qui peut être possible si plusieurs banques risquent la faillite en même temps. Il y a donc dans ce filet de sécurité l'idée de partage du risque, et voilà pourquoi ce n'était pas facile à arracher aux Allemands. Maintenant, ce ne serait qu'en 2024, donc mieux vaut qu'aucune crise ne se déclenche avant cette date. Et d'ici là, il reste des tas de choses à négocier. La forme que prendrait ce filet de sécurité, sa taille et surtout les contreparties exigées par les Allemands qui vont exiger, c'est sûr, plus de contrôle et de discipline en échange.
Marie Viennot, merci beaucoup. La trêve de fin du Ramadan est bel et bien enterrée en Afghanistan. Les talibans y ont mené ce matin leur première attaque majeure contre des membres des forces de sécurité afghanes. 30 soldats ont été tués dans une embuscade dans l'ouest du pays. C'est la bataille dans la bataille, dans la guerre qui fait rage au Yémen. Les forces pro-gouvernementales affirment avoir repris ce matin aux rebelles houthis le contrôle de l'aéroport d'Hodeïda. Ce port sur la mer Rouge est particulièrement stratégique car c'est là qu'arrive l'aide humanitaire dans ce pays en plein chaos. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour.
Cette prise de l'aéroport d'Hodeïda, c'est une perte importante pour la rébellion chiite soutenue par l'Iran?
Oui, l'aéroport a été donc nettoyé de la présence des rebelles. Il est sous le contrôle total des forces pro-gouvernementales. C'est ainsi qu'un communiqué militaire émirati présente la situation ce matin. Pour des habitants de la ville d'Hodeïda, ce sont surtout les forces de la coalition arabe qui ont fait le gros du travail. Elles auraient pris d'assaut ce matin de larges pans de l'enceinte principale de l'aéroport. La rébellion houthi a fait état d'une offensive renforcée hier par plus de 40 frappes aériennes menées autour de cet objectif. Et cette ville portuaire est un objectif précieux pour la suite puisque c'est le principal port du Yémen contrôlé par les Houthis. C'est de là que passe l'aide humanitaire, mais plus important pour la coalition sunnite, c'est via ce port que sont acheminés les équipements destinés à la rébellion chiite Houthi. Et là, les puissances sunnites de la région pointent du doigt l'Iran, accusé d'aider militairement les rebelles. Les Houthis sont toujours présents dans la ville et auraient, selon des témoignages sur place, creusé des tranchées. Le port d'Hodeïda, resté ouvert hier, a permis au PAM, au Programme Alimentaire Mondial, de décharger 3 navires de nourriture, de quoi alimenter, dit-on, 6 millions de personnes pendant un mois. Mais si les Émirats Arabes Unis, membres importants de la coalition, affirment que la stratégie militaire actuelle tient compte de la situation humanitaire, les ONG restent inquiètes après cette nouvelle offensive dans un pays où la guerre a déjà provoqué la crise humanitaire, la pire crise humanitaire dans le monde. 22 millions de Yéménites ont besoin d'une aide d'urgence et 8,4 millions sont déjà menacés par la famine.
Nabila Hamel, merci à vous. Midi 44, la clarification est venue ce matin de Laurent Berger en personne. Le secrétaire général de la CFDT ne souhaite pas que la grève à la SNCF se poursuive au-delà du calendrier annoncé début avril, soit pas au-delà de jeudi prochain. Le leader syndicaliste explique que ce n'est pas là une bonne image à donner du syndicalisme, que les grandes vacances c'est un moment un peu sacré, pas question d'y faire grève, même si, reconnaît Laurent Berger, la réforme ferroviaire désormais votée ne lui convient pas. Voilà pour les déclarations faites ce matin sur CNews, Hakim Kasmi. Et cette fois, il ne reste vraiment plus rien de l'unité syndicale qui avait prévalu tout au long de cette mobilisation des cheminots.
Oui Camille, une désunion qui n'est pas du tout une surprise, vu qu'il s'agissait d'une union de raison. Si le combat contre la réforme ferroviaire était une cause commune, les stratégies appliquées ont souvent divergé. Pour l'UNSA et la CFDT, réformistes, il s'agissait surtout de peser sur les négociations pendant les discussions sur la loi au Parlement. Maintenant qu'elle a été définitivement adoptée la semaine dernière, le combat doit prendre une autre forme. Pour l'UNSA, désormais, il faut se concentrer sur la future convention collective en discussion actuellement entre le patronat et la SNCF et les syndicats. Roger Tillemseger, le secrétaire général de la section UNSA Cheminots, n'exclut pas toutefois des actions ponctuelles pendant ces négociations. Ce que ne partage pas du tout la CGT Cheminots, elle est pour la poursuite de la grève au-delà du 28 juin, réunie toute la journée à son siège de Montreuil. Elle doit d'ailleurs annoncer dans la soirée les jours de grève qui pourraient être prévus en juillet. Les 6 et 7 week-ends de grand départ pourraient être retenus, tout comme le 11, jour de négociation sur le fret avec les syndicats à la SNCF. Laurent Brun, secrétaire général de la CGT Cheminots, estime également qu'il est encore temps de peser sur les ordonnances, tout comme sur les 9 décrets attendus sur la réforme ferroviaire. Enfin, Sudrail, qui est aussi pour la poursuite du mouvement, n'exclut pas des actions surprises durant l'été.
Hakim Kesmi, merci. L'ardoise s'annonce particulièrement salée. Pour le groupe Engie, l'ex-GDF pourrait bien devoir rembourser 120 millions d'euros au Luxembourg, pays qui lui a accordé pendant des années des arrangements fiscaux illégaux. C'est la Commission européenne qui somme le Grand-Duché de récupérer cet argent. Emmanuel Macron, lui, était au Cap Fréhel en Bretagne ce matin. Avec Nicolas Hulot, il assiste à une présentation du projet de parc éolien offshore de la baie de Saint-Brieuc. Projet El Marine, décrié par certains élus locaux, avec ses 62 éoliennes qui devraient être installées en mer d'ici 2022. Bonjour Véronique Roberotte.
Bonjour.
Plus globalement, les projets éoliens en France continuent de faire débat. En témoigne cette tribune publiée dans le Figaro par 10 députés de droite et de gauche, où ils exposent leurs arguments, plus seulement esthétiques, mais désormais économiques.
Alors, aux arguments effectivement esthétiques, une éolienne c'est vilain dans le paysage, aux arguments environnementaux, les éoliennes tuent les oiseaux, l'opposition se trouve aujourd'hui renforcée dans son argumentaire par le souhait du gouvernement de vouloir renégocier le prix de rachat d'électricité qui serait produite par les éoliennes offshore, les éoliennes en mer. Donc, 6 parcs à venir à l'horizon 2022 au large des côtes françaises, dont celui de Saint-Brieuc. Or, 6 ans après les appels d'offres, l'État souhaite réduire le coût de soutien public à ces projets. Il met en avant une rémunération trop élevée, négociée en 2012, qui ne correspond plus au prix actuel de l'éolien en mer. Et si les négociations vers une baisse du prix de rachat d'électricité n'aboutissent pas avec les porteurs de projets des parcs donc éoliens, le gouvernement menace d'annuler d'ailleurs ces projets, ni plus ni moins, moyennant indemnité, et de relancer des appels d'offres sur la même région géographique ou à proximité. Bref, tout recommencer à zéro. Une position défendue dans une tribune, donc ce matin dans le Figaro, vous l'avez dit, par 10 députés, dont 7 les Républicains, 2 Républiques en Marche et 1 UDI. Elle est intitulée « Stop aux nouvelles éoliennes ». Selon les signataires, eh bien, les renégociations en cours concernant les projets de centrales éoliennes en bord de côte sont une bonne occasion pour tout remettre en cause, d'aller, je cite, vers une autre technologie française et d'avant-garde à travers des éoliennes flottantes placées à 50 km des côtes, autrement dit non visibles de la plage. Une tribune qui se termine par une demande de moratoire sur les éoliennes côtières et terrestres également. Tout cela laisse penser que la France n'est pas prête de rattraper son retard, son énorme retard dans le domaine.
Véronique Roberotte, merci. Et il est maintenant midi passé de 48 minutes, l'heure de retrouver l'invité de ce journal, Jacqueline Gourault, ministre donc auprès du ministre de l'Intérieur, et Stéphane Robert qui vous interroge.
On va revenir sur cette question des migrants. On a vu les limites de la position de l'entre-deux défendue par Emmanuel Macron et par le gouvernement avec la question du navire Aquarius. L'exécutif a un peu tardé à répondre, tandis que la Corse proposait de les accueillir. Et finalement, on a laissé l'Espagne se charger du problème. Pourquoi déjà cette difficulté à gérer la question? Et c'est quoi la règle quand il y a une urgence humanitaire comme ça?
La règle, elle est internationale et européenne. La règle, c'est que c'est la proximité la plus évidente ou la plus courte des côtes d'un pays qui doit accueillir les migrants qui sont sur un bateau.
En l'occurrence, pas l'Espagne.
Pardon ?
En l'occurrence, pas l'Espagne.
En l'occurrence, pas l'Espagne. En l'occurrence, l'Italie, dans ce cas précis. Et vous savez ce qui s'est passé. Ensuite, la Corse était d'accord pour que le bateau aille dans un port, mais entre accueillir et aller dans un port pour faire une étape, il y a une nuance. Et je crois que la France a joué son rôle en respectant les accords et en envoyant immédiatement à Valence, en Espagne, une délégation de l'OFPRA pour accueillir les migrants et pour offrir l'asile à ceux qui, bien sûr, le demanderaient pour notre territoire. Alors, c'est vrai que les images, le fait d'un bateau qui n'a pas de, comment dire, enfin, qui est refusé sur les côtes italiennes, crée un émoi qui est très important.
Avec aussi des conséquences, hein, des jours en mer pour ce bateau qui est censé être sur zone pour sauver des gens, ça veut dire des vies qui n'ont pas été sauvées. Est-ce que si on l'avait accueilli à Marseille, on n'aurait pas aussi pu sauver des vies très concrètement, plutôt que de gagner du temps?
Je pense que le président de la République et le gouvernement ont voulu, comme hier, parler un langage européen. Et quand il y a un langage européen et un langage international, il faut le respecter et chacun prend ses responsabilités.
Précisément, il y a eu des discussions en Allemagne là, sur cette question-là. Gérard Collomb vient de rentrer sur cette question des migrants. Et finalement, on a l'impression qu'on essaye de remettre en place la procédure de Dublin. C'est ça qui a été négocié. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire appliquer quelque chose qui est mal appliqué aujourd'hui, c'est ça?
Oui, alors, il y a plusieurs points sur la politique européenne. J'ai moi-même participé, il y a à peine 2 semaines, au JAI, au Luxembourg, c'est-à-dire la rencontre de tous les ministres de la justice et de l'intérieur européens. Et il y avait une discussion qui portait sur 2 points très importants, effectivement Dublin, et deuxièmement sur le renforcement de Frontex, c'est-à-dire des frontières européennes, bien évidemment. Alors Dublin, vous savez que c'est un système qui est à la fois une protection pour les migrants et en même temps qui provoque beaucoup de migrants secondaires, c'est-à-dire des gens qui arrivent dans un pays et qui vont tenter leur chance dans un autre pays. Donc il y a à la fois l'idée de respecter l'idée fondatrice de Dublin, mais de pouvoir aussi le réformer. Et il y a eu une proposition bulgare, puisque c'est les Bulgares qui présidaient, qui était assez équilibrée et qui était partagée par un certain nombre de pays. Mais en même temps, vous savez qu'il y a des pays qui, sur ce plan de l'immigration, je vais parler de l'Autriche, je vais parler de la Pologne ou de l'Italie maintenant, qui sont sur des positions extrêmement dures, ou parfois aussi des ministres dans des gouvernements, on le sait pour l'Allemagne, on le sait pour la Belgique, qui ont des positions très dures par rapport à des gouvernements de coalition. Donc ceci nécessite beaucoup de discussions et beaucoup de doigté, mais en tout cas, hier, ce qui a été important, c'est que la France et l'Allemagne se sont mis sur une position commune pour le sommet qui va avoir lieu à la fin du mois de juin. Et ça, c'est très important pour relancer, effectivement, une politique européenne de l'asile, et avec aussi, vous le savez, une demande qu'il y ait, au niveau européen, une structure pour l'asile.
Précisément, compte tenu de toutes ces difficultés au niveau européen, est-ce qu'il n'est pas difficile, parce que là vous êtes en train de mettre en place des règles, de nouvelles règles pour ce qui concerne l'asile et l'immigration en France, avec la discussion du projet de loi qui a été voté en première lecture à l'Assemblée, qui est maintenant au Sénat, est-ce que on peut appliquer ces nouvelles règles-là dans ce contexte européen très difficile, on le voit, et qui se tend de plus en plus?
Il y a 2 choses, c'est que nous avons une responsabilité nationale. Du traitement de l'asile. Bon, voilà, et c'est une tradition française, et nous maintenons cette tradition française au plus fort et avec, une organisation la meilleure possible. Et on sait qu'elle était perfectible. Quand il y a des gens qui sont dans des campements dans les rues de Paris, ça n'est pas normal. Donc il faut absolument, modifier et améliorer la loi en France. Mais il y a 2 choses, il y a le traitement de l'asile en France et puis il y a la politique européenne qu'on peut aussi mettre en place. Et il faut sans arrêt travailler sur les 2 tableaux, si je puis dire. Parce que nous avons évidemment, et je pense que c'est une évidence pour toutes les populations et pour les Français, que c'est un problème européen et que l'immigration c'est un phénomène mondial. Et on pourrait parler d'autres pays, bien évidemment, qui connaissent aussi ce problème. Donc il faut sans arrêt travailler sur les 2 niveaux, à la fois national et à la fois européen.
Les sénateurs ont voté des quotas, l'instauration de quotas hier soir. Ça, c'est acceptable comme...
Non, ça n'est pas acceptable. Le gouvernement avait mis un amendement de suppression, mais qui n'a pas été voté.
Merci beaucoup Jacqueline Gourault d'avoir été l'invitée de cette séquence interview. Il y avait beaucoup d'autres questions qu'on avait préparées avec Stéphane Robert et le temps nous manque pour vous les poser. Merci et bonne journée à vous. Du côté de la météo justement, en parlant de bonne journée, soleil pour tous avec des températures qui grimpent partout cet après-midi. 23 à 25 degrés sur le quart nord-ouest, 28 à Paris, Strasbourg et Nice, 30 degrés sur Lyon et même 32 annoncés sur la basse vallée du Rhône. Cette édition était réalisée avec Yacine Bouzard. À 18h, le prochain journal vous sera présenté par Lise Verbeck.